Aujourd'hui, au gré du temps, nous accueillons le professeur Norman Cornett. On peut dire que vous êtes un érudit. À tout le moins, c'est fascinant de vous entendre nous parler de culture, de nous parler même de notre propre histoire, qui dépasse largement parfois la connaissance que peuvent en avoir eux-mêmes certains Québécois. Vous êtes un passionné.
Oui, quand je fais quelque chose, M. Dubois, je le fais à 300%.
Et vous êtes un passionné aussi de politique américaine. Mm-hmm. Où vont les États-Unis au plan politique? Depuis l'avènement de Donald Trump, vous le savez, il n'y a pas une journée où on ne parle pas de ce président pour le meilleur et pour le pire, et souvent pour le pire plutôt que pour le meilleur. Que doit-on penser de l'avenir politique de ce grand État, de cette grande république qui comporte 50 États?
Mais je crois qu'il y a un nouveau vent qui souffle sur les États-Unis. Les élections mi-mandat en novembre 2018 étaient en quelque sorte autant de lignes directrices. Et là maintenant, chez les démocrates, on a des candidates. Je dis bien,
oui.
Femmes.
Mais il y en a beaucoup.
Démocrates, c'est sans précédent, Monsieur Dubois. On a 5 femmes, dont 4 sont sénatrices. La diversité des candidates en soi est combien prometteur.
Mais est-ce que les démocrates ne risquent pas de déchirer leur chemise sur la place publique?
Il y a certes une possibilité de ce que moi j'appelle une politique centrifuge qui s'entre-déchire, qui s'entre-divise, que ça devient une guerre fratricide, parce qu'il y a l'établissement, la vieille école démocrate, Joe Biden, oui. Le clan Clinton, et il y a les sociaux-démocrates, à mes yeux, les progressistes, les libéraux.
Sanders, par exemple.
Bernie Sanders, qui était en quelque sorte le prophète de tout ce mouvement, mais que là, maintenant, la jeunesse, la relève, s'implique avec les jeunes représentantes femmes élues, peut-être avec des personnes comme Beto O'Rourke, de mon état natif, du Texas. Donc, on voit qu'il y a des... Il y a de l'espoir sur l'horizon.
Est-ce qu'une réélection de Trump est toujours possible?
C'est toujours possible parce qu'il y a des intérêts pétroliers. Et j'ose dire, Monsieur Dubois, et j'insiste là-dessus, quand on regarde ceux et celles qui ont élu Bush père, Bush fils, Dick Cheney comme vice-président, le gouverneur de l'État de la Floride, Jeb Bush. On parle souvent dans la conscience américaine de la famille Kennedy, mais la famille par excellence politique aux États-Unis depuis des décennies maintenant, ce n'est pas les Kennedy, c'est la famille Bush, c'est le clan, et eux qui sont appuyés. Mais avec des millions et des millions dans des caisses électorales par des compagnies pétrolières. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui appuient sans équivoque. Est-ce que vous entendez parler des grandes compagnies pétrolières qui protestent Donald Trump?
Non. Mais les Bush n'appuient pas Trump.
Oui, ça c'est une question de la légende. Ils veulent passer dans l'histoire comme d'excellents. Mais j'invite l'auditoire de Radio VM de faire des recherches d'où vient l'argent pour ces gens-là. Que ce soit les Bush, que ce soit Donald Trump, ça vient des grandes compagnies pétrolières. C'est pour cela qu'on renverse toutes les lois sur écologiques, sur l'environnement, toutes les restrictions sur ces compagnies pétrolières. En point tel, M. Dubois, moi je parle d'une pétrocratie aux États-Unis.
Thank you. Thank you.
vient de passer 10 belles minutes en écoutant le piano, le concerto pour piano numéro 2 en do mineur, le premier mouvement, opus 18, marqué Moderato de Serge Rachmaninoff, proposé par le professeur Norman Cornett, en parlant de politique américaine. Que c'est apaisant d'entendre Rachmaninoff!
Apaisant et combien? Je rappelle à l'auditoire de Radio VM d'où venait ce concerto, le deuxième concerto du piano par Rachmaninoff. Eh bien, après sa première symphonie, il est tombé dans une dépression si profonde, il renonçait à la composition et il suivait des séances avec un psychiatre. Or, ce premier mouvement qu'on vient d'entendre, c'est en fait la libération psychologique de Rachmaninoff comme artiste, comme compositeur. Il s'est affranchi grâce à cette thérapie psychiatrique et il renoue avec ses sources créatives par la thérapie qu'il a suivie pendant des années. Donc, il se déchaîne et on a l'impression d'écouter son âme qui savoure cette liberté, cette franchise, cette grâce.
Et j'ajoute une note, le pianiste que nous entendions a pour nom Abbé Simon. Il aura 100 ans le 8 janvier 2020. Il a commencé à apprendre le piano, imaginez, en 1925, lorsqu'il avait 5 ans. Et en 1940, à 20 ans, il remporte le concours international de piano de Nombourg. Un jour, un critique du New York Times, très célèbre, Harold Schoenberg, a évoqué dans un article avoir entendu un super virtuoso. Ce qualificatif lui est resté pour le reste de ses jours. On raconte qu'il excelle particulièrement dans les interprétations d'œuvres de Ravel et surtout Chopin, répertoire dans lequel il révèle sa virtuosité exceptionnelle. Il enseigne encore, paraît-il, même à son âge très avancé. Il donne une ou deux classes de maîtres annuellement. On a choisi Abbé Simon parce que c'était vous, professeur Cornett, qui était ici. Et savez-vous quoi? Même s'il est né à New York, il a élu résidence à Houston, au Texas. Alors, vous avez probablement quelque chose en commun, vous et lui. Avant de poursuivre avec l'autre pièce, je vais le préciser quand même. On va entendre Eric Carmen. Vous devinez sûrement pourquoi on a choisi cette chanson, All by Myself, parce que Carmen s'est inspiré de ce deuxième mouvement du concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Il a utilisé la musique de Rachmaninoff pour composer sa chanson, et c'est une chanson qui, en 1976, a fait tout un tabac. Elle est devenue numéro 1 au Billboard américain, comme on dit, au palmarès. Elle a été reprise par de nombreux interprètes, dont Céline Dion. Alors, on va écouter Eric Carmen, et ensuite, on poursuivra pour parler de politique américaine.
Volontiers.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure. and love so distant and obscure remains the cure.
On peut dire que c'est un bel amalgame, vous qui aimez beaucoup l'approche dialogique, la chanson populaire et la musique dite sérieuse de Rachmaninoff qui ne fait qu'un tout avec cette chanson « All by myself ». C'est quand même original.
Oui, dans le cas de Rachmaninoff, on parle d'un des derniers, sinon le dernier, de l'école romantique de la musique occidentale. Rappelons que le mouvement romantique en musique a commencé au 19e siècle, à peu près les années 1820 par là, mais qui s'est prolongé grâce à Rachmaninoff. Et je parlais de, n'est-ce pas, de cette libération qu'il a vécue. Et j'irai plus loin. Et là, je cite Henri Bergson, le grand philosophe français du XXe siècle, juif d'origine, et qui a voulu répondre à toute la théorie de Darwin, de l'évolution scientifique, l'évolution sociale. Et il disait, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Et c'est quelque chose... Bergson, qui a gagné le prix Nobel en littérature, alors que c'est un philosophe, il écrit si bien la philosophie qu'il gagne le prix Nobel en littérature. Il faut le faire, n'est-ce pas? Mais il lui appelait ça parce qu'il voulait lui aussi cerner où est la dimension spirituelle, où réside, jusqu'où va la condition humaine. Eh bien, Bergson a proposé le concept de l'élan vital. À toute fin pratique, ce qu'on entend chez Rachmaninoff, c'est l'élan vital de Bergson. Ils étaient d'ailleurs contemporains. Et dans le cas de Eric Carmen, All by Myself, et encore, j'insiste sur le dialogue entre Carmen et Rachmaninoff, mais ce titre, pourquoi est-ce qu'il a connu un si beau succès, un si grand succès? Parce que ça fait écho à ce sens profond de l'aliénation. On est certes dans une société énorme, grandiose, des foules et des foules, et pourtant, on se sent si seul. Et c'est ça que j'avais remarqué à l'université, c'est que alors qu'ils étaient des milliers d'étudiants, ils se sentaient complètement isolés. Or, il faut faire face à l'aliénation foncière de la condition postmoderne.
Professeur Cornette, il nous reste à peine une minute. Je veux quand même que vous nous disiez, je reviens à la politique américaine, est-ce que le fait que Donald Trump aura été un jour président des États-Unis aura laissé une empreinte cicatricielle sur la société américaine?
Sûrement. Oui. Sûrement. Les divisions, ils sont toujours en Sciences Po, en sciences politiques. On commence déjà à faire des thèses là-dessus, puis on va en faire de plus en plus. Comment se fait-il qu'on a eu un président de la sorte?
Oui.
Ceci dit, il est loin d'être le premier qu'on a eu comme ça, Monsieur Dubois. Il y a toujours de l'espoir. J'invite l'auditoire de Radio VM de regarder l'histoire de Warren G. Harding. Alors, on a eu des gens, disons, de la même trempe.
Ben écoutez,
pas la même trempe.
Mais on va se laisser sur ce jeu de mots. Écoutez, ça a été fantastique. On aurait pu poursuivre encore pendant des heures et des heures. On rappelle que vous êtes toujours collaborateur à l'émission de Michel Gailloux, Debout VM, où vous faites l'analyse presque de manière hebdomadaire sur l'évolution de la politique américaine. Et si un jour on veut lire sur vous, qu'est-ce qu'on fait?
Mais vous pourriez lire un héritage controversé publié, Gérard Bouchard, moi-même et d'autres ont publié sur l'héritage de Lionel Groulx.
Merci beaucoup. Ben, merci de ce passage et bon succès pour la suite des choses. Je sais que vous allez probablement laisser votre trace dans le domaine de l'éducation.
Je vous en remercie, Monsieur Dubois.
Cette émission a été réalisée sous la gouverne technique de Pierre de Gagné, Armand Dubois, l'animation et la réalisation. Réfléchissez à ces paroles de grand sage, celles du professeur Norman Cornette. Et nous, on vous revient la semaine prochaine. Le temps de vous dire qu'on va se laisser avec une belle chanson d'Aznavour, Les enfants. Les petits chanteurs à la Croix de Bois et Charles Aznavour nous disent essentiellement que les enfants vont sauver le monde, ce pourquoi professeur Cornette serait fort probablement d'accord.
Oui.
Referont le monde les enfants, à condition qu'ils aient assez de temps, qu'ils aient assez de chance, et c'est une évidence qu'ils soient libres et vivants. Ils vont apprendre à lire les enfants, les mêmes Bibles, les mêmes Corans, mais d'une autre manière. Comme quand on est frère, tout en étant différent.
Ils referont le monde, les enfants. 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 Ils referont le monde, les
cet infâme voyage, demain qui les attend. Ils vont apprendre à vivre les enfants, chacun sa vie tout en la partageant, ils referont le monde, le sort.